juin 40. La France et une partie de l'Europe sont envahies. Les armées hitlériennes qui rêvent de dominer le monde occupent notre pays. Pour les maîtres de l'ordre, cela n'est pas suffisant. Et c'est alors qu'avec la complicité du gouvernement de Vichy, Hitler et Staokel organisent la déportation des ouvriers et de la jeunesse française pour le travail forcé en Allemagne. Ces monstres et leurs valets, en s'attaquant à toutes les forces vives de la nation, croient ainsi anéantir toute résistance. Combien ils se trompent. Sur le sol même de l'ennemi, les déportés du travail nullement résignés, gardant au cœur l'esprit de la patrie engagée, frappent eux aussi. Apportant ainsi leur contribution à la lutte contre le nazisme, au combat pour les libertés, la démocratie et la paix. Répondant à l'appel de la Fédération nationale des déportés du travail, en ce matin du 13 juin 1965, pour commémorer le 20e anniversaire du retour, nous étions 10, 100, 1000 et encore des milliers dans cette salle de l'Alhambra, devenue pour un jour temple de la fraternité et du souvenir. Autour de la rotonde, chaque drapeau marquait la présence d'une de nos provinces de France à ce rendez-vous. En invitant les déportés du travail, les réfractaires et les familles de nos camarades disparus en cette journée du souvenir, la Fédération nationale des déportés du travail a marqué sa volonté de poursuivre sans défaillance la mission qu'elle s'est assignée dès sa naissance, il y a de cela plus de 20 ans, et qui se résume en ces mots, entraide et solidarité, unir et agir pour la défense de l'honneur et des droits de toutes les victimes de la déportation du travail, pour la défense des libertés, de la démocratie et de la paix. Et maintenant, amis déportés du travail et réfractaires, écoutez les voix qui, au nom de la Fédération nationale des déportés du travail de France, rappellent aujourd'hui à ceux qui, hier enchaînés, criaient avec nous « Paix, liberté, solidarité, que le combat n'est pas terminé ». Amis et camarades, écoutez Georges Beauchamp, président fondateur de la Fédération nationale des déportés du travail.
En ouvrant cette séance, je salue toutes celles et tous ceux qui, par leur présence à nos côtés, donnent à cette manifestation du souvenir sa véritable signification. Nous nous réjouissons de vous voir si nombreux pour commémorer avec nous ce 20e anniversaire du retour des déportés du travail. Ce retour, nous sommes quelques-uns à avoir eu la chance de pouvoir le préparer, dans l'ombre d'abord, dans les rangs de la résistance intérieure, puis au grand jour, après la capitulation des nazis. Certains des nôtres manquaient, tombés dans le combat, morts, torturés ou écrasés sous les bombes. D'autres revenaient ayant combattu au grand jour, déportés du travail, incorporés dans les rangs du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, libérateurs de Mauriac dans le Cantal, ou compagnons de Lannurien et Lehmann, héros d'une bataille inexpiable en Slovaquie, 3000 prisonniers de guerre évadés et déportés du travail, mal armés, mal équipés, immobilisèrent pendant des semaines 15 divisions du 3e Reich parfaitement organisées. C'est tout cela que nous évoquons aujourd'hui. En même temps, nous nous souvenons de ce que fut la joie de l'accueil. Une ombre pourtant à ce tableau. L'acharnement avec lequel nous avons dû insister pour que les pouvoirs publics veuillent bien accepter de lâcher bribe par bribe les morceaux d'une légitime réparation. Le principal reste à faire. C'est de donner à des victimes de la guerre la qualification à laquelle elles ont droit. Cela veut dire que le combat n'est pas terminé. Ce combat pour la dignité sans concession que nous avons entrepris et que, reprenant de nos mains le flambeau, d'autres poursuivent vigoureusement et poursuivront jusqu'au succès final. Voilà, mes chers camarades, ce que je souhaitais vous dire. La bataille continue. L'obstination maligne mise par certains à faire obstacle au bon droit des déportés du travail sera vaincue. Car il n'y a pas d'exemple que quand une masse d'hommes de bonne foi monte à l'assaut d'une bastille de l'injustice et de l'arbitraire, cette bastille ne finisse par tomber. Prenons donc rendez-vous pour nous retrouver, toujours aussi unis et fraternels, afin de célébrer une victoire qui sera la seule récompense que nous attendons. extrait la locution d'ouverture de notre ami Georges Beauchamp. La parole est donnée à notre camarade Auguste Rossler, président de la Fédération nationale des travailleurs déportés et réfractaires de Belgique, secrétaire général de la Confédération internationale des déportés du travail, qui apporte aux déportés du travail et réfractaires de France les salutations fraternelles de leurs camarades belges. La parole est maintenant à André Léniaud, secrétaire général de l'Association des déportés du travail réfractaires de la Seine, membre du bureau national de la FNDT.
Mesdames, messieurs, chers camarades, il y a quelques semaines, la France célébrait avec ferveur et un éclat particulier le 20e anniversaire de la victoire, associant dans un même hommage les soldats des armées alliées, américains, britanniques, soviétiques, les combattants de tous les pays qui, avec ou sans uniforme, ont uni leurs efforts pour abattre une idéologie monstrueuse et nous permettre de retrouver la liberté. Au cours de ces cérémonies officielles, les héros et les martyrs de la guerre 39-45 ont été honorés et ce fut l'occasion de rappeler les crimes perpétrés par l'Allemagne hitlérienne. Mais une fois encore, ceux qui furent les victimes de la déportation du travail ont été oubliés, ou plus exactement, mis à l'écart. Pas une seule fois dans les discours prononcés par les représentants du gouvernement, dans les émissions de la radio ou de la télévision, il n'a été fait mention de la déportation du travail, de la vie clandestine, de la vie d'hommes traqués, menée par ceux qui avaient pu échapper à la déportation ou qui, à l'issue d'une permission, ont pris la position de réfractaire. C'est la conspiration du silence autour d'un crime perpétré par les nazis avec la complicité du pseudo-gouvernement de Vichy et sanctionné par le tribunal international de Nuremberg par un verdict de mort. Cela n'est certes pas pour nous surprendre lorsque l'on connaît la campagne de discrédit menée par certains contre les déportés du travail et lorsque l'on sait en outre que cette campagne, véritable falsification de l'histoire, dont notre ami Jean-Louis Forest vous parlera tout à l'heure, trouve une oreille bienveillante dans les sphères gouvernementales et les antichambres ministérielles. Mais ce que le gouvernement n'a pas cru devoir faire à l'égard de notre catégorie de victimes du nazisme, nous sommes, la Fédération nationale des déportés du travail le fera en honorant au cours de ce rassemblement les morts et les martyrs de la déportation du travail. Les déportés du travail n'ont pas à rougir en effet de leurs actes passés, ce qui n'est peut-être pas le cas pour certains de leurs censeurs. Ils ne sont pas ces individus sans conscience, ces vils personnages qui, par esprit de lucre ou par manque de courage, se sont mis volontairement, délibérément à la disposition de la machine de guerre ennemie. L'histoire et leur attitude pendant leur déportation s'inscrivent en faux contre de telles accusations qui sont une atteinte à leur honneur et à leur dignité d'homme. Là où le destin les avait placés, les déportés du travail ont accompli leur devoir de patriotes. Déportés pour travailler en terre ennemie, ils ont senti plus que d'autres que la machine qu'ils avaient entre leurs mains pouvait être une arme au service de la France et de ses alliés. Et c'est pourquoi ils se sont ingéniés à saboter cette machine sous toutes ses formes. C'est par dizaines et dizaines de milliers que l'on peut compter les heures de travail perdues par l'économie allemande.
Pour illustrer cette affirmation, notre ami André Léniaud cite alors une circulaire de la fabrique de locomotives de Wildau qui témoigne du refus des déportés du travail de participer à l'effort de guerre nazi, puis il poursuit.
Les déportés du travail n'étaient donc pas, comme certains le prétendent, des hommes qui ont mis leur expérience et leur force au service de la machine de guerre ennemie, mais ils étaient le grain de sable qui entravaient la production de guerre nazie, les Messerschmitt qui ne décollaient pas, les moteurs des tanks Tigre qui ne démarraient pas, les machines-outils qui tombaient constamment en panne, les pièces loupées en série, c'était la résistance des déportés du travail. Certes, ce combat n'était pas spectaculaire, mais il n'en était pas moins un combat mené au service de la France. Et c'est par dizaines de milliers que nos camarades ont été envoyés dans les camps de représailles créés par Sauckel, dans les Arbeitslager, les Straflager, dont les noms sonnent encore dans nos oreilles, comme ceux de Brux et de Grossbeeren. Nombreux sont également ceux de nos camarades qui connurent la prison et les camps de concentration. Car pour acte de résistance, 15 000 des nôtres ont été fusillés, pendus ou décapités.
André Legnaud rappelle alors l'assassinat des 340 déportés du travail dans le Rombenpark de Dortmund, l'exécution à la hache des 11 cheminots de Brandenburg, l'existence du charnier au camp disciplinaire de Grossbeeren, où reposent les corps non identifiés de 800 déportés du travail. Les condamnations à mort prononcées contre des déportés du travail à Marienfeld pour acte de sabotage, à Linz pour organisation d'une chaîne d'évasion de prisonniers de guerre qui permit à 80 d'entre eux de retrouver la liberté. Puis il évoque la lutte armée des déportés du travail et des prisonniers de guerre évadés dans les maquis yougoslaves, en Tchécoslovaquie, à Turek et à Strekno, et leur participation à la libération du territoire national dans les rangs du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés.
Telle fut la conduite des déportés du travail et des réfractaires de France. Sans doute sommes-nous loin du tableau idyllique et injurieux dressé par le député Béraud, rapporteur de la proposition de loi, mais les faits sont ce qu'ils sont et personne n'a le droit de les travestir. En rappelant ce passé douloureux en ce 20e anniversaire, en ravivant en nos cœurs de cruels souvenirs, nous n'avons pas la prétention de nous faire passer pour des héros. Mais nous entendons affirmer que nous ne permettrons à personne d'attenter à notre honneur et par là même à la mémoire de nos morts. Nous n'avons d'ailleurs pas de leçon à recevoir de ces professeurs tardifs de vertus patriotiques, quand bien même aujourd'hui, leur poitrine serait-elle constellée de médailles. En cette fin 42, en ce printemps 1943, où par centaines de milliers l'on déportait les ouvriers et la jeunesse de notre pays, où était-il? Que faisait-il? Pour autant que je sache, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à cette époque, nos censeurs étaient beaucoup moins bavards qu'aujourd'hui. En ce 20e anniversaire de la victoire, nous avions espéré qu'il serait mis un terme à cette regrettable polémique instaurée par certains autour du titre à attribuer à notre catégorie de victimes de la guerre. Nous avions espéré que l'unité retrouvée de toutes les victimes du nazisme, quelles qu'elles soient, agirait d'un même cœur dans le souvenir de leurs martyrs afin de ne plus permettre à l'Allemagne d'être à nouveau en proie à cette folie meurtrière qui engendra l'extermination de millions d'hommes, de faire en sorte que l'humanité soit préservée à tout jamais d'une nouvelle guerre. Oui, la fidélité à la mémoire de nos martyrs nous impose ses devoirs, et c'est pourquoi nous n'avons pas oublié que des hommes avaient compris que la vie n'avait aucun sens sous la domination et l'oppression du nazisme et du militarisme allemand, que la terreur, les violences et l'esclavage ne pouvaient être acceptés par des hommes qui entendaient conserver leur dignité d'homme. C'est pour cela, dis-je, que nous nous sommes opposés et que nous continuerons à nous opposer de toutes nos forces à la prescription suivant le régime de droit commun des crimes commis par les nazis en Allemagne et dans les pays occupés par la Wehrmacht. La prescription permettrait en effet à des milliers de criminels de guerre, camouflés à travers le monde et ayant ainsi échappé jusqu'alors à toute poursuite, de sortir de l'ombre et circuler en toute impunité. Ainsi, le général Lamerdigne, le responsable des massacres de Radour, dont le gouvernement français s'est toujours abstenu de réclamer l'extradition, pourrait revenir en toute quiétude sur les lieux mêmes de ces crimes. Le droit commun, c'est-à-dire la prescription des crimes au-delà de 20 ans, après l'acte accompli, ne peut être applicable aux nazis coupables d'exactions, coupables de la conception et de la réalisation de plans destinés à exterminer une partie du genre humain. Ces crimes définis dans le statut international de Nuremberg, signé le 8 août 1945 et dans la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, ont été qualifiés de génocide, de crimes de guerre, crimes commis contre l'humanité et ne seraient par conséquent échappés au châtiment.
Notre ami Legnaud indique alors que la vague de protestation qui a déferlé de par le monde avait tempéré les prétentions du gouvernement de Bonn qui s'était prononcé pour la prescription, puis il conclut sur ce sujet en précisant.
S'opposer à la prescription de ces crimes odieux, ce n'est pas vouloir entretenir un climat de haine à l'égard du peuple allemand, c'est réclamer justice pour toutes les victimes du nazisme.
André Legnaud aborde ensuite l'action menée depuis 20 ans par la Fédération nationale pour la défense des droits des déportés du travail et réfractaires et souligne l'importance de son œuvre sociale. Toutefois, bien des problèmes sont restés sans solution. André Legnaud énumère alors nos revendications les plus importantes. Le problème de notre titre, qui est et reste notre objectif principal, application loyale du rapport constant en matière de pension, réforme du statut des réfractaires, levée des forclusions, extension de la présomption d'origine, etc. Puis il poursuit.
Certes, cela ne sera pas chose facile, car le gouvernement qui n'ignore rien du mécontentement des anciens combattants et victimes de la guerre, se refuse au règlement de ce contentieux sous le prétexte que ça lui coûterait trop cher et mettrait en cause la doctrine de sa politique dite de stabilisation. À la vérité, il s'agit là d'un faux fuyant pour masquer un refus pur et simple. Car le gouvernement n'ignore pas non plus qu'à la fin de chaque exercice budgétaire, il reste dans le cadre des crédits affectés au ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre, des dizaines de milliards non utilisés en raison de la disparition de pensionnés et de retraités. C'est ainsi, par exemple, que pour la seule année 1964, 30 milliards sont restés inutilisés. Or, comme l'ont déclaré à maintes reprises, l'ensemble des associations d'anciens combattants et de victimes de la guerre, ces sommes économisées annuellement seraient suffisantes pour satisfaire la presque totalité des revendications des anciens combattants et des victimes de la guerre, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'avoir recours à un vote de crédit supplémentaire. Rien par conséquent, en dehors de la mauvaise volonté des pouvoirs publics, ne s'oppose donc à ce que satisfaction soit donnée à nos légitimes revendications.
André Legnaud indique que cette situation nous commande de continuer l'action avec vigueur et nous impose de développer notre action sociale et de solidarité afin d'être en mesure d'apporter notre soutien à tous ceux qui portent encore dans leur chair et dans leur cœur les marques de la déportation du travail et du réfractariat et conclut son exposé par un vibrant appel à l'union de tous les déportés du travail et réfractaires.
Cette mission sociale, chers camarades, ces tâches, nous les réaliserons ensemble, fraternellement unis, au sein de notre fédération. À ceux de nos camarades, déportés du travail ou réfractaires, qui sont restés jusqu'alors en dehors de cette action sociale et de défense des droits, à ces camarades inorganisés, nous leur demandons de nous apporter leur soutien en rejoignant les rangs de notre fédération. En ce 20e anniversaire de notre libération du retour et de la fin de la guerre, comme le programme, le mot d'ordre qui préside à ce magnifique rassemblement, faisons ensemble le serment de poursuivre dans l'amitié et la solidarité qui nous ont unis dans les camps, dans le souvenir de nos camarades disparus dont nous honorerons la mémoire en nous recueillant tout à l'heure sur la dombe du DT inconnu, symbole du martyrologe de la déportation du travail. Oui, faisons le serment de poursuivre ensemble le combat pour la défense de notre honneur, de nos droits et de la paix.